I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans le cinquième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et à vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. J'avais 13 ans la première fois que j'ai vu Carrie Bradshaw dans son tutu rose en deuxième partie de soirée sur M6, un samedi d'octobre 2000. Tout au long de mon adolescence, Sex and the City a été une fenêtre sur ce que pourrait être une vie de femme célibataire, indépendante et citadine, si on habite à New York et pas comme moi, à Portée-sur-Garonne. La trentaine en poche, Carrie et ses amis ont une vie bien remplie, de carrières exaltantes, de relations plus ou moins réussies, de fêtes dans des clubs qui ont des noms de meubles.
What can we do? That would be fantastic. I'm taking you to bed. It's a new club opening tonight.
Oui, de religion pour certaines et de conversations pendant le brunch dominical. L'amour, le sexe, les poils pubiens, les vibromasseurs et pourquoi qu'il m'a quitté sur un post-it. Et c'était un modèle de vie, sauf que de l'autre côté, à 30 ans, nos parents étaient déjà mariés, avaient deux enfants, une maison, un chien, une kangou jaune et une mutuelle. Aujourd'hui, on en a 30 passés, 6,50€ sur notre carte fidélité Monoprix, des meubles Ikea qu'on a montés seuls en buvant un peu trop de vin, et une bonne grosse pression des familles sur notre statut marital pendant les repas du dimanche. On ne compte plus les excuses à la con que l'on sort sur le fait qu'éventuellement, on ne se sent pas d'être parent, ou pire, que l'on est peut-être heureux tout seul.
Mon Dieu, qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre ?
Alors si avant d'avoir monté à l'envers notre colonne Billy, on avait déjà vécu toute une vie dans une vie, si on avait fait le choix, avant d'être célibataire, d'être avec l'élu, de vivre cette relation cheveux au vent, à 1000 à l'heure sur l'autoroute du bonheur, mais avec la kangou de maman. Le scénario de vie est la trame inconsciente qu'une personne suit en écrivant sa propre histoire, reproduisant parfois, et souvent, le schéma de ses parents. À 17 ans, les parents de Florie se sont rencontrés à l'endroit exact où leurs parents s'étaient rencontrés. Au même âge, Florie est la vedette d'un scénario similaire. Le feuilleton commence au lycée, le suspense est à son comble, va-t-elle tomber amoureuse de l'acteur ou tout simplement changer de série ? Faire des choix pour soi, des choix qu'on n'a pas choisis, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui.
Oh yes, I am. We are getting married.
I have a friend on a big sitcom right now.
Nobody's gonna marry me. I'm 29 already.
A thousand little heartbreaks that come with divorce.
I think I fell in love with him that day.
Do you love me like I love you?
I want a divorce.
I'm not married.
Aujourd'hui, je suis avec Florie. Bonjour Florie.
Bonjour Léa.
Bon, on va pas vous mentir, avant d'enregistrer, on a décidé de papoter autour d'une bouteille de vin blanc. Donc sachez qu'on en est actuellement à la deuxième, on l'a pas ouverte et vraiment...
C'est qu'une question de temps.
Voilà. Du coup, Florie, merci beaucoup.
Merci.
D'être avec moi ce soir.
Avec toi et avec Joe.
Au coin du feu, exactement. Joe surveille toujours les enregistrements de podcast. Florie, s'il te plaît, en quelques mots, peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Florie, j'ai 33 ans, je suis de 87.
87, meilleure année.
N'est-ce pas ? Très grand cru. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Quel intérêt peux-tu trouver à mon histoire ?
Qu'est-ce que je te trouve, c'est ça ? Alors, Florie, il se trouve que dans mon entourage, tu es déjà la personne avec qui, c'est très étrange, mais quand on s'est rencontrés la première fois, c'était peut-être il y a 2 ans, un truc comme ça. Il y a une phrase dans les Sims qui dit, genre quand tu cliques sur quelqu'un qui dit... inspirer une confiance injustifiée. Et c'est ce que tu m'inspires. C'est trop bizarre. Genre, je sais pas pourquoi, le jour où je t'ai vue, je me suis confiée. De trucs nuls, de trucs moins nuls. Mais en gros, on a beaucoup parlé. Et j'ai l'impression que tu es de ces gens dont les gens ont envie de se confier, ont envie de discuter parce que t'es une très très bonne oreille. Et souvent, t'as les bons mots. Donc, en parlant, tu t'es aussi un peu confiée. Malheureusement.
Malheureusement, ça m'a mené ici.
Je m'en sers pour faire un podcast. Non, mais du coup, je trouve que ton histoire est incroyable. Et dans The Raccoon Club, nous, ce qu'on aime, c'est les histoires incroyables, les histoires de vie, les histoires qui veulent dire quelque chose et dont on se sert pour faire autre chose. Du coup, je voudrais revenir avec toi sur toute une période de ta vie qui a fait celle que tu es aujourd'hui
et je voudrais qu'on se remette, on rembobine la cassette et on retourne à peu près dans les années 2000.
En 2000, je suis au lycée. En 2003, je fais une rencontre qui va changer un peu ma vie. Un amoureux.
D'accord.
Qui, je pense qu'on peut appeler ça un coup de foudre.
Vous étiez dans la même classe ?
Pas du tout. Je vais te dire la vérité. Je sortais avec un de ses meilleurs potes.
Ah, bravo. Bravo, ça commence si bien.
Et je rencontre cette personne qui me bouleverse. Sans même savoir qui c'est.
Pourquoi ? Par son attitude ?
Par son attitude très distante, très sûre de lui. Et donc, je me lie d'amitié avec cette personne qui va devenir mon mari.
Et du coup, pour en arriver à... J'imagine qu'il se passe tellement de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit que c'est le coup de foudre ?
On a l'impression, alors en tout cas pour moi, j'ai identifié ça comme un coup de foudre parce qu'on a l'impression de connaître déjà cette personne.
C'est très rare qu'à cet âge-là, on se dise « cette personne-là, ça va être mon mari ».
Alors, on attend que ça, le coup de foudre, quand on a 17 ans. De toute façon, on a lu.
À tout âge.
On a lu, on a vu des séries, on a vu des films, on a juste envie de ressentir quelque chose qui se passe dans le tréfonds de soi. et donc, comme toutes les adolescentes de mon âge, j'avais des histoires avec des garçons, j'avais envie aussi de devenir une femme, tout simplement. Donc, je faisais plein de rencontres, je datais des mecs, j'avais des petites amourettes, des crushs. Et puis, cette personne m'a bouleversée de manière différente parce que j'avais l'impression qu'on était connectés d'une certaine manière. Mmh. Et il allait au-delà de la relation garçon-fille qu'on peut avoir à 17 ans.
Il avait le même âge que toi ?
Il avait un an de plus que moi.
Ah oui, mais un an de plus,
ça fait la différence à cet âge. En tout cas, il était connecté avec le présent à ce moment-là. Et c'est important ce que je dis parce que les garçons, quand on a 17 ans, sont dans une projection... ils cherchent pas grand-chose à part te mettre dans leur lit, très concrètement.
Et il y a les hormones qui jouent pas mal.
Exactement. Et il était au-delà de ses hormones. Il était beaucoup plus connecté avec...
Le titre de son nouveau roman,
Au-delà de mes
hormones.
C'est pas mal.
Chez Gallimard.
Et on a eu une connexion très amicale tout de suite. Et on a été évidemment... plus loin et on est devenus des amoureux. J'étais, je pense, en fin de la première.
Et lui en terminale.
Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je pense que c'est l'homme de ma vie.
Comment on peut être sûr à cet âge-là ? Non, mais je trouve ça génial et en même temps, je m'interroge parce que je ne l'ai pas vécu. Comment on sait à cet âge-là que c'est l'homme de sa vie ? Même si on en a très envie, au fond de soi.
On le sait parce que c'est cet âge-là. Du coup, on est très sûr de soi alors qu'on ne sait rien du tout de la vie. Donc, on est en 2003, j'ai 17 ans, j'ai des parents qui sont mariés, je grandis dans un modèle familial qui est très traditionnel. Et ma maman a rencontré mon papa à 17 ans. À ce moment-là, évidemment, je ne m'en rends absolument pas compte. Je suis conditionnée dans une espèce d'image très idyllique et fantasmagorique du couple. Et à ce moment-là, il correspond en tout point parce que c'est quelqu'un de gentil, bienveillant, à l'écoute, qui n'est pas là pour le sexe, qui est là pour la personne que je suis et a envie de savoir où je suis, qui je suis, où on va aller. C'est la première et la seule personne à ce jour, donc aujourd'hui j'ai 33 ans, que j'ai présentée à mes parents.
D'accord. Donc c'était l'élu, quoi ?
C'était l'élu.
C'était Néo.
Et donc, on a construit cette relation amoureuse. Et en 2005, je récupère mes résultats du bac. Il est avec moi. Je vois que je suis reçue. Et on décide de partir vivre ensemble à Bordeaux. Et donc, avec ce ticket d'entrée, plus cette personne que mes parents connaissaient et appréciaient beaucoup, qui est quelqu'un de très bien, j'ai cette autorisation de sortie. Et donc je pars, donc moi je suis née en Dordogne, j'étais à Périgueux à ce moment-là. Je passe pour
Périgueux, si tu nous entends,
tape dans tes mains. Et donc, je pars, j'ai cette autorisation pour partir faire mes études à Bordeaux. On est en 2005. Et plutôt que de partir seule dans un petit studio, je pars avec cette personne que j'aime et qui connaît mes parents et qui, lui, va commencer une vie active et va m'accompagner dans ma vie d'étudiante.
Est-ce que tu as l'impression que tu étais obligée de faire ce cheminement dans ce sens-là ? Pour que ça marche comme tes parents l'auraient voulu pour toi et comme toi tu voudrais pour toi. C'est-à-dire, voilà, commencer ta relation amicale, ensuite que ça devienne amoureuse, ensuite de passer son bac et ensuite de partir avec cet homme que tu as déjà présenté à Bordeaux. Voilà.
Est-ce que c'est pas le menu parfait d'un restaurant étoilé, 4 plats.
Exactement. Non, mais
c'était parfait. C'était ce que j'aurais imaginé. Ça, je pense pas m'être menti à ce moment-là. Je correspondais vraiment à un schéma pour pouvoir m'affirmer auprès de mes parents et correspondre vraiment à ce qu'ils attendaient. Et effectivement, je suis partie à 18 ans, comme dit la chanson, avec mon bac en poche, la petite mention qui va bien. Le projet universitaire, mon mec sous le bras et mon permis en poche.
Et tu pars à Bordeaux.
Et je pars m'installer à Bordeaux. La city.
La city pour moi. La grosse pomme, comme on l'appelle.
La grosse pomme du sud-ouest.
Exactement.
Et donc on s'installe là-bas et là je passe de, du coup, ma vie d'adolescente. Je vais juste te situer ma chambre d'adolescente à 18 ans quand je pars de chez mes parents.
Mettez-vous en condition, fermez les yeux.
Voilà, donc j'ai ma mini télé avec mon magnétoscope dans ma chambre.
Parfait.
Ça, c'était mon truc d'indépendance. J'avais mon radio cassette CD avec mes petites compiles que je faisais de Skyrock.
Bien sûr.
Et j'avais un énorme poster de Kurt Cobain qui était mon héros absolu, qui est un... s'est suicidé très très jeune.
Alors oui, malheureusement, il n'est plus là. Hein.
Mais tout ça pour te dire que j'étais quand même dans une espèce de process d'émancipation que j'essayais d'afficher. Et donc, je pars avec cette chambre très adolescente, très affirmée dans cette pseudo-rébellion de l'âge. Et j'arrive dans un appartement dans lequel je dois vivre avec un homme.
Ouais. Qui lui aussi fait des études universitaires ?
Non, pas du tout. Lui, il est parti du coup très très vite dans le monde du travail.
D'accord. Donc c'est et encore plus. Peut-être un
ça
peu.
Ça fait très papa maman d'un
coup. Exactement.
Donc il va travailler, moi je vais à l'université tous les jours et dans notre appartement il n'y a pas de poster de Kurt Cobain.
Et non.
À l'époque je pense que j'ai envie de me projeter dans cette image de femme active,
de maison de grande.
Exactement.
De grand.
On prend un animal de compagnie.
Waouh.
Mais oui.
C'était quoi?
Je sais pas, c'est très intéressant, mais on a pris un petit lapin.
D'accord. Intéressant de me rendre. Pourquoi est des grands maintenant.
Voilà.
On prend un lapin.
Et puis donc on prend ce petit appart en plein cœur de Bordeaux et donc je vais à la fac tous les jours. Je pars faire des études de lettres. Pour la petite histoire, je fais des études de lettres parce que je ne sais absolument pas quoi faire.
J'ai cru que t'allais dire parce que je ne sais absolument pas lire.
Je savais à peu près lire. Je me souviens que j'ai fait un bac L et j'avais été voir mon prof de philo en lui disant je sais pas, j'ai pas envie de faire l'hippocane-cane. Ça m'emmerde. Et il m'a regardé, il m'a dit tu n'es pas faite pour ça, tu vas te faire chier. Va à la fac et éclate-toi. J'avais pas de modèle universitaire et je savais même pas ce que c'était des études de lettres.
Donc t'avais pas trop la pression de
absolument
faire des études
pas.
Pour réussir.
Absolument pas. C'est un schéma que j'ai choisi parce que j'avais envie d'exister à travers des choses que j'aimais. J'avais une passion, c'était de lire. J'avais une autre passion qui était d'écrire. Mais je me serais jamais lancée là-dedans à corps perdu. Par contre, j'ai une de mes camarades qui m'a dit « Je fais une fac de lettres à Bordeaux. Ça a trop cool. » J'ai regardé le programme, j'ai fait « Mais du coup, il faut lire toute la journée. J'y vais. »
Allez, c'est bon. Banco. On vend la caravane.
Exactement. Et du coup, voilà, on s'installe là-bas et on commence une petite vie. Et
ça se passe bien ?
Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Alors, on apprend ce que c'est la vie à deux, ouais, sans connaître ce que c'est la vie tout seul. Et tu sais, il y a comme une espèce de surenchère.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que tu dois prouver que t'es grand. Alors oui, tu joues encore plus au grand. C'est comme quand on en parlait tout à l'heure autour d'un verre de vin, on jouait à la marchande quand on était petite et on faisait le restaurant, on servait de la terre à nos parents et à nos cousins. Mais là c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu dois montrer que t'es une grande fille, donc
tu joues le rôle de la grande fille.
Je cuisine.
Eh ouais.
On est en 2005, je cuisine. C'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui, on est en 2021, je ne cuisine pas. Tous mes amis pourront te le dire, chez moi c'est du vin, des pizzas qu'on commande sur Deliveroo, mais je ne cuisine jamais. À cette époque-là, je cuisine, je fais des desserts, je m'intéresse, j'essaye d'être le modèle maternel aussi que j'ai connu, et c'est pour moi le schéma qui fait qu'un couple marche.
D'accord, et est-ce que ça marche ?
Ça marche.
Parce que vous êtes des gens quand même... Je pense que toi, t'as ce truc très très cool aujourd'hui, mais je pense que tu l'étais déjà. Enfin, ça s'invente pas là comme
oui,
ça.
Oui, j'ai toujours été très cool.
T'as toujours été plutôt cool et plutôt pisse. Donc, je pense qu'il y a ce truc genre, on est des gens cool, on prend tout à la cool, genre tout va bien.
Il y avait une manière de. Alors, pour ne pas trop dévoiler de sa vie à lui, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il a un schéma totalement différent. C'est-à-dire qu'il a vécu une maman qui a divorcé 4 fois, qui s'est mariée 4 fois, et qui, elle, n'a pas un schéma familial très cadré.
C'est pas du tout le même que toi, du coup.
L'opposé total. Et donc, lui, il avait envie peut-être de construire quelque chose qu'il n'a jamais connu, c'est-à-dire un foyer stable. Et moi, au contraire, du coup, j'étais dans un prolongement de ce que je connaissais. Est-ce qu'on était cool ? En tout cas, on avait envie de montrer que être en couple, alors qu'on a 18-20 ans, c'est trop bien. On s'en fout de vos dates, vos machins, vos soirées. Nous, on kiffe, on est quand même hyper fêtards. Par contre, on vous reçoit chez nous et voilà, on joue au grand.
Alors, ce qui m'inquiète un peu dans ton récit, c'est qu'on aurait, dans une autre vie, pu complètement se croiser. Puisque à l'époque où tu as habité à Bordeaux, j'étais... Et si tu sortais, moi, j'étais photographe too late à
Mais
Bordeaux.
Non.
J'habitais à Bordeaux à peu près aux mêmes dates.
Il est très possible qu'on se soit croisé quai de Paludade.
Exactement. Et je pense que la vie a fait qu'on ne s'est pas croisé à ce moment-là. Mais
ou alors on s'en souvient pas.
Je visualise très très bien.
Donc nos semaines à l'université, au travail, on se retrouve le soir. Petit dîner le vendredi, petite soirée pizza le samedi. On allait sortir à la plage ou je sais pas où. Voilà, dans des...
Ah, vous aimiez bien zouker. Ah,
voilà, tout à fait.
D'accord.
Et, on est le couple, tu sais, qui rassemble les autres potes célibataires.
Vous êtes moteur.
Exactement.
Ah, je vois tout à fait.
On est le couple genre, ah mais vous, jamais ça ne se terminera. Ah. Vous, c'est parfait. Et en général, quand les copines me disaient, et toi alors, du coup, comment ça va? Et je disais, mais moi, tout va bien.
Mais moi, moi,
moi je plane à 20 000.
Vous êtes là. Vous pouvez pas voir ma main. Mais moi, je suis là. Et là, ma main est proche des étoiles.
Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rends compte que... Donc, j'ai 20 ans.
Et tu te la pètes un max.
Alors, oui. Non, mais c'est-à-dire que... Tu sais, quand on a 18-20 ans, on croit qu'on est insubmersible. On est Superman, Superwoman. On sait tout. On sait tout parce qu'on s'affirme et parce qu'on a besoin de dire qu'on sait tout parce qu'en fait, on ne sait rien. Et j'étais assez persuadée, donc à 20 ans, j'ai 2-3 ans de relation avec mon mec, on vit ensemble, on est bien, on a une relation très saine, il n'y a pas de drama.
D'accord.
Vraiment, on est sur la même longueur d'onde et tout. Et quand mes copines vivent des drames, ce qui est normal, entre 18 et 20 ans,
oui,
les ruptures, il m'a trompée, en fait, il est encore avec sa meuf, etc. Moi, je me dis, elles ont rien compris.
Tu penses vraiment ça à ce moment-là?
À ce moment-là, je me dis, elles ne savent... C'est terrible, hein, parce que j'ai assez honte de moi d'avoir pensé ça, mais je te le dis. Je te le dis avec beaucoup d'honnêteté.
Elles t'attendent à la sortie de cet enregistrement.
Mais je les connais encore et
elles
m'ont pardonné. Là, mais je me dis, elles n'ont pas compris ce qu'il faut faire. Moi, je sais. Moi, je sais, j'ai compris. Et nous, ça durera toute la vie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le fait d'avoir une relation
très stable et pleine de certitudes. Je suis pleine de certitudes dans ma vie. Je suis sûre de mes choix politiques, je suis sûre de ce que je veux faire dans ma vie, je suis sûre de mes avis, et je suis même d'ailleurs assez... C'est difficile d'avoir une conversation avec moi, ça part très vite en débat. Tu vois ce que je veux dire ?
T'es très fermée sur tes opinions.
Tout à fait.
Et très affirmée. Lui partage tes opinions.
Il partage mes opinions. Après, on a 20 ans, donc on se calque l'un sur l'autre.
Bien sûr.
Est-ce qu'on prend du recul sur ce qu'on veut ? Est-ce qu'on se nourrit aussi d'autres cercles ? Chacun de notre côté, c'est une autre question. Voilà, on se conditionne un petit peu tous les deux. On se forme, on grandit. On grandit en même temps, on grandit ensemble, et finalement avec un jeu de miroir. Alors, on a 20, 22 ans, moi je commence à avancer dans mes études, j'atteins un master, je vais à Paris, il me suit évidemment, on prend un appartement à Paris, je vais à la Sorbonne, et... C'est un master qui laisse un peu plus de temps, master de lettres, donc on commence à voyager. Là, on voyage un peu partout dans le monde, on prend du temps pour ça.
Parce que financièrement, vous étiez plus installés aussi ?
Oui, en tout cas, on faisait en sorte de dépenser notre argent dans les voyages. Bon, ça, on avait une envie commune d'aller voir le monde. Tous les deux, on a une famille, en tout cas à cette époque-là, qui ne roulait pas sur l'or, qui ne nous a pas beaucoup fait voyager quand on était petits. Et on avait envie de voir le monde, donc on commence à voyager beaucoup. On est très jeune et ça fait plus de 12 ans, mais on fait la van life, alors que ça n'existait pas.
À l'époque, c'était pas trop la mode.
Hein. Ah non, on prend notre voiture, on l'aménage, on met un matelas dedans, on fait le tour de l'Italie, on part en Argentine, on part en Australie. Enfin voilà, on se balade bien, on se fait vraiment plaisir et on apprend finalement à se connaître aussi différemment.
Et comment ça se passe à ce moment-là, pendant les voyages ?
Mais alors, c'est étrange, parce que franchement, ça se passe bien. J'ai pas beaucoup de...
Ça se passe aussi bien que quand vous êtes ensemble, dans un petit appart à Bordeaux.
Oui, on a une dizaine d'années de découvertes et de sans drame à évoluer ensemble, au même rythme, à beaucoup communiquer, à s'admirer mutuellement aussi, ben, dans ce qu'on était en train de construire, tu vois, la personne qu'on était en train de devenir. Et on arrive en 2013, donc là on est à 9 ans de notre relation.
Ouais, ça va vite.
Ça va très vite. Là je dois avoir 27 ans, 26 ans.
Alors sachant que tu reproduis quand même assez fidèlement le schéma de tes parents, ta mère t'a eu quand même à 23 ans, ça c'est le petit tips que je vous donne. Du coup, toi, à l'étape des 23 ans, est-ce que tu as ressenti quelque chose en disant « Ah, ma mère m'a eu à 23 ans », est-ce que tu t'es dit « Est-ce que c'est pas le moment où j'aurais envie de faire un enfant ?»
C'est vrai que j'ai éludé quelque chose. À 23 ans, j'ai eu un bébé.
Ah.
Je l'avais posé son verre. À 23 ans, t'allais boire un verre d'eau ?
J'allais boire un verre de vin, pour tout vous dire. D'accord. Donc
non, à 23 ans, j'ai eu un bébé, c'est une entreprise. Ce qui devait être au départ associatif, je monte une maison d'édition.
À 23 ans ?
À 23 ans, en me disant, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que je suis dans un schéma opposé total à ce moment-là, à ce que j'ai appris de ma maman. Qui a donné sa vie à nous élever, en fait, qui a arrêté toute sa vie professionnelle pour nous élever. Et par contre, je reproduis un schéma paternel parce que mon papa est un entrepreneur et qu'il a monté plusieurs boîtes.
T'as un peu pris des deux, quand même.
Exactement. Mais effectivement, là où je suis un schéma très traditionnel dans ma vie personnelle, je casse tout d'un point de vue professionnel. Je fais les choses, en tout cas, à l'envers. Donc en 2013, j'ai cette entreprise qui fonctionne, en tout cas qui me salarie et qui est mon exutoire de tous les jours, qui me permet aussi de m'épanouir en tant que femme et me donner certaines valeurs de ce que je suis. J'ai 23 ans, on part à Bali à ce moment-là pour un mois, pour découvrir un petit peu l'île et sur une plage. C'est très très cliché.
J'ai peur de la suite.
C'est très cliché. Tu disais tout à l'heure qu'on était cool, mais il y a un côté très cliché dans tout ça.
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas cool.
En tout cas, je pense que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, ça faisait presque 10 ans qu'on était ensemble et on avait parlé un petit peu de ça pour fêter ça.
D'accord.
Pour fêter ce
dixième anniversaire.
Tout à fait. Il met pas un genou à terre.
Mais what?
Mais en tout cas, sur cette plage de Bali, il sort une petite boîte.
Quoi?
Oui.
Alors, je n'ai aucune idée. J'ai fait exprès de ne pas demander comment s'est passé ce moment pour me le garder pour maintenant. Ok, donc ça s'est passé à Bali,
tout
quoi.
Tout à fait. On est vraiment dans le cliché. On est sur cette plage à Bali. Il y a un sunset. On se prend un petit verre. On s'installe sur une table. Il y avait même des musiciens au loin. Je me suis dit, mon Dieu, qui s'approche pas.
C'est moi.
C'est très gênant. Et donc, il sort cette petite boîte et il me dit, est-ce que tu veux devenir ma femme? Et je me souviens très très bien de mes mots qui sont sortis, alors que c'était pas du tout ce que je ressentais, mais c'était ce que je pensais. Je lui ai dit « D'accord, mais j'ai peur ». À ce moment-là, après 10 ans avec quelqu'un, je pense que tous les gens qui nous écouteront, qui ont partagé autant de temps avec quelqu'un, seront d'accord. C'est au-delà d'un amoureux, c'est-à-dire que c'est un partenaire de vie, c'est ton meilleur ami, c'est ta famille.
C'est ton phare dans la nuit.
C'est tout à fait dans la nuit, dans le jour. En tout cas,
c'est ton phare breton.
Il était pas breton, mais... mais en tout cas, c'est ton tout.
Oui.
C'est ton tout, Enfin, quand je te dis un de mes premiers souvenirs de notre relation, un des premiers souvenirs de relation, un souvenir fort, c'est quand même les résultats de mon bac. Et là, on est presque 10 ans plus tard. On est sur cette plage à Bali et il me demande en mariage. Et donc, c'est censé être un aboutissement. Et je suis en face de quelqu'un qui sait tout de moi. Mes moindres défauts, mes moindres peurs, qui a traversé... les pires étapes, qui m'a vu passer mon permis de conduire, qui m'a vu être diplômée, passer mes premiers entretiens d'embauche, valider ma première année de chiffre d'affaires, etc.
Mais c'est tout ça qui fait qu'il a envie de te demander en mariage.
Tout à fait. Et je crois, à ce moment-là, et ça, entre nous, entre filles, on va se le dire, qui me fait aussi sa demande parce qu'il a senti des appels.
C'est-à-dire ?
Il a senti des appels parce que je lui disais, ça va faire 10 ans, ce serait bien qu'on acte quelque chose. Je pense qu'à ce moment-là...
Parce que t'en avais envie.
J'avais envie...
T'avais exprimé plutôt l'envie de...
Ouais, j'avais envie de vivre ce moment peut-être centré sur nous, de porter cette robe dont tout le monde parle.
D'accord, donc t'étais pas genre ultra choquée et...
non.
T'étais pas choquée de fou quand tu t'as demandé en mariage.
Non, je pense que, entre nous, on sait toujours.
Mais ça fait quand même, pense, un petit choc quand même.
Ça m'a fait un petit choc parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, parce que on a tendance, en tout cas moi j'étais beaucoup plus proactive dans notre relation que lui, et effectivement je me suis dit, waouh, là il passe un cap, il a été acheter cette bague que je lui avais montrée il y a un an, au milieu de 1000 choses, il a été l'acheter et là, il l'a gardé tout ce temps avec lui. On est sur cette plage et il me sort cette bague. Et je suis à ce moment-là hyper frustrée d'avoir que ça qui sort de ma bouche parce que c'est ce que je ressens, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, notre vie d'adolescent va s'arrêter.
Mais t'es heureuse quand même ou tu l'es pas?
Je suis heureuse. Je l'aime.
Oui.
Je l'aime.
C'est deux choses différentes.
C'est deux choses différentes.
Vas-y, Florine.
Je l'aime. Est-ce que je suis heureuse? Je pense que je suis satisfaite de ma vie.
Mais est-ce que tu es heureuse qu'il te demande en mariage?
Je suis satisfaite qu'il me demande en mariage. Si tu veux, à ce moment-là, c'était un goal.
Bien sûr.
Voilà. Ça fait 10 ans de couple. On a, à cette époque-là, 26 ans. On est installé. C'est une suite logique. Donc, j'atteins un objectif de mon âge qui correspond à ce que les autres attendent aussi. Donc, je suis heureuse que ça arrive. Je me sens gâtée, choyée, élue. Donc c'est très satisfaisant. Est-ce que je suis pleinement heureuse, épanouie ? Je pense que c'est ce qui ressort quand je dis j'ai peur, parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose.
Malgré tout ça,
oui.
Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce que tout s'accélère ? Vous décidez donc de vous marier ? Combien de temps plus tard ?
Alors, on décide de... Donc, il m'offre cette bague, on rentre chez nous, parce qu'on est voilà, très proche de nos familles. Et au moment où on l'annonce, je vois la réaction de mes parents, qui est excessive.
Ça, ils étaient trop heureux.
Extrêmement heureux. On sent quelque chose de très... Ils s'approprient très vite la chose.
D'accord.
Et là, ça nous échappe. C'est-à-dire que
ça n'avait... vous appartient plus vraiment.
Complètement. Et ça, c'est du fait de notre âge aussi, parce qu'on est... On a un peu du mal à s'affirmer, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir aussi. Mais ce qu'on avait identifié comme quelque chose, même si je voulais porter peut-être cette petite robe blanche que j'avais vue sur un magazine, parce que j'ai 26 ans et que je me projette sur des choses aussi assez futiles, on avait quand même envie de faire ça comme une fête entre potes.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme plus une fête entre potes que, voilà, que quelque chose de très sacré ou de religieux, en tout cas.
Complètement. On n'avait pas du tout voilà, projeté de faire quelque chose en grande pompe, comme on dit. C'était vraiment, on va se retrouver tous les deux et puis on va fêter nos 10 ans. Entouré de nos amis.
Un petit 39 niveau pointure de mariage.
Exactement.
Pas mal.
Et en fait, quand on le dit à nos parents, ils s'approprient un petit peu la chose. Je pense qu'il y a évidemment un principe de transfert. Et donc, ils se saisissent de l'instant en proposant des dates, en proposant... Ouais. De faire les choses voilà, un peu plus larges, en invitant la cousine machin et la tante truc. Et donc, quand on dit que ça c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire, bah, ils mettent le prix aussi pour le faire, et ils ont envie de nous faire plaisir. Et finalement, on se dit bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai qu'un mariage, un beau mariage, eux, ils en ont pas eu. C'est génial d'avoir cette chance-là, d'avoir des parents qui t'accompagnent. Et donc, on fait le mariage. On commence à préparer le mariage, le mariage idéal. On se marie le 11 juillet 2015.
D'accord. Et comment ça se passe ce jour-là ?
Tous nos potes viennent des quatre coins de la France, donc ça c'est assez génial. On loue un domaine dans le Périgord. Et on prévoit 3 jours de fête. C'était assez chouette parce que les gens viennent. On avait loué plusieurs espaces pour qu'ils puissent rester, etc. Pour nous, c'était très important que ce soit festif. Et on voyait presque ça comme un anniversaire, plus que comme un mariage. On a oublié qu'il fallait à un moment donné passer devant Monsieur le maire. C'était vraiment... On se retrouve avec tous nos potes et on a un super budget pour le faire, c'est génial. On avait des tirs à bière, beaucoup de champagne, la musique qu'on voulait. C'était très simple en termes
des 30 ans, mais
exactement.
En mariage, quoi.
Il y avait une déco très simple, mais très, voilà, très qui nous ressemblait. Et surtout, c'était pas du tout ostentatoire d'un point de vue romantique, etc. Parce qu'on a toujours été très pudiques dans notre façon d'exprimer nos sentiments.
Quoi, tu veux dire qu'il n'y a pas eu de lâcher de colombe ?
Pas du tout, pas de les lanternes, etc. Non, mais il n'y avait même pas de fleurs roses ou j'en sais rien. Enfin voilà, c'était très... C'était très simple, mais en même temps très gênant. C'était très gênant.
Pourquoi gênant ?
Parce que tu te retrouves avec... c'est intimidant, t'as 100 personnes qui viennent un petit peu
de
partout. Voilà, exactement, qui attendent qu'une chose. Moi, je me souviens, on n'a pas fait l'église parce que tous les deux, on est athées et que c'est quelque chose qui ne nous ressemblait pas. Mais on a fait, du coup, évidemment, le passage devant Monsieur le maire. Et,
de Périgueux ?
De Brantôme, exactement. Et, et ce qui est...
Brantôme, si tu nous écoutes, tape dans tes mains.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est arrivé. Alors déjà, je suis arrivée en retard, mais ça, c'est un classique.
Alors, bravo.
Tous déjà. Les gens qui me connaissent savent que je suis en retard pour tout. Et donc, on est arrivé et j'ai trouvé le moyen de faire une blague. C'est-à-dire que le maire a dit, du coup, est-ce que vous voulez ça ? J'ai dit, laissez-moi réfléchir.
Ah d'accord, tu es ce genre de personne.
Donc j'ai voilà, tout le monde arrive.
Laissez-moi réfléchir. Oui,
d'accord. Voilà, donc la blague pas drôle qui a quand même fait rire tout le monde, mais parce que on était quand même dans un climat extrêmement anxiogène. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai rarement été aussi stressée de ma vie que le jour de ce mariage, donc le 11 juillet. Et donc, voilà, le passage devant le maire se fait et on se retrouve à faire la fête et on se met une grosse caisse, comme on
Bien
dit.
Bien sûr, mais c'était prévu.
Exactement, enfin, c'était on est ivre-mort.
C'est le goal.
On est ivre-mort, tout se passe bien, voilà, tout le monde s'éclate et tout. Mais tu sais, tu cherches ta place, c'est dans ce mariage. Moi, je pense que tous les gens qui sont mariés, qui écouteront ce podcast, seront d'accord. Il y a un moment donné où tu te dis, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe?
Mais ça doit être...
Tout échappe. Le problème, là où c'est compliqué, c'est que tu te retrouves à un mariage avec, allez, 3 voire 4 générations
oui.
de famille. Donc, on est en conflit générationnel. Il y a des gens qui vont y voir quelque chose d'absolu et d'incroyable. Et puis, il y en a d'autres qui vont voir ça comme une fête. Et au final, on se marie, on passe du bon temps ensemble. Finalement, je pense, à ce moment-là, avec du recul, qu'on passe beaucoup de temps aussi avec nos propres potes. À faire la teuf et on va donc on avait loué des espaces dans le domaine et tout et je me souviens de ça, c'est assez intime mais on va se coucher, on s'endort très vite.
Mais t'es crevé je pense.
On est mort, il est 6h ou 7h du mat et le lendemain matin je me réveille à 8h, il dort encore et j'ai une petite bouffée d'angoisse, en tout cas de... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé un truc important ou pas? Je me rends pas compte. Est-ce que je suis différente? Et je me souviens avoir marché un petit peu autour du domaine. On recevait des gens pour le brunch, tu sais, traditionnel après le mariage. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis demandé si on n'avait pas fait une petite bêtise. Je réfléchis en même temps que je te parle, mais je pense qu'à ce moment-là, je savais que c'était vain. Je pense qu'à ce moment-là, on savait, lui et moi, qu'on n'était plus amoureux.
Tu penses que c'était juste parce que c'est l'idée que vous étiez fait tous les deux de la concrétisation de vos 10 ans de relation et qu'il fallait absolument faire quelque chose?
C'est la personne à ce moment-là que j'aime le plus au monde.
Bien sûr.
Donc évidemment qu'il faut faire quelque chose pour le dire. Et c'est la personne qui m'apporte le plus et qui est là dans les bons, dans les mauvais moments. C'est mon partenaire de vie. Mais je pense qu'on a moins de désir, qu'on est moins en phase, qu'on commence à passer un certain cap de vie. Là où nos idées, nos idéaux et nos réflexions commencent à diverger un petit peu. Mais je me souviens vraiment de ce sentiment où j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise en même temps. Ouais, mais je l'ai fait avec lui, donc ça va.
Et lui, est-ce que tu sais comment il se sent?
Je sais qu'il a été très stressé par la journée, donc je visualise comme il est stressé parce qu'il est timide et qu'il se retrouve avec 150 personnes qui le regardent toute la journée et qu'il doit dire devant tout le monde qu'il m'aime et que du coup c'est très gênant. Mais je pense qu'il pense la même chose que moi, sauf qu'on ne se le dit pas. Alors qu'on se dit tout.
À ce moment-là, c'est
tabou. Tu ne peux pas dire attends, on s'est mariés hier, mais t'es sûr?
C'est impossible à dire, ce serait renoncer à tout ce que tu as fait pendant des mois et je pense que ce serait comme se trahir soi-même à ce moment-là.
Tu sais, il y a toujours cette... je pense que quand tu accompagnes par exemple une amie qui va se marier, il y a toujours des moments où elle va te dire « je sais plus, j'ai des doutes, je sais pas, puis il y a mon collègue, il est quand même beau gosse, j'en sais rien, mais en tout cas, tu crées des petits doutes ». Et toi, en tant que bonne amie ou en tant que demoiselle d'honneur ou ce que tu veux, tu vas lui dire « Non, mais c'est parce que c'est le stress, donc évidemment. » Mais au fond, avec du recul, je me dis « C'est peut-être l'instinct de survie qui s'exprime ou en tout cas qui te dit « Pourquoi prendre de grandes décisions comme ça ?» En tout cas, moi, je sais que j'avais eu des petits appels qui n'étaient pas très graves et je suis contente de ne pas les avoir écoutés. On en reparlera peut-être après, mais... En tout cas, il fallait que j'aille au bout de jusqu'à ce mariage parce que c'était incroyable et incroyable à vivre et merveilleux avec lui. Mais j'avais ces petits doutes quand même.
Tu avais très envie quand même d'aller jusqu'au bout pour savoir ce que...
Très envie d'aller jusqu'au bout pour deux raisons. Parce que c'était lui, et que ça valait bien ça. Mmh. Et très envie d'aller jusqu'au bout parce que sinon ça aurait déçu aussi tout le monde. Mmh. Et moi-même aussi, j'aurais eu du mal à me regarder dans une glace en embarquant toute ma famille et tous mes amis dans cette aventure.
Oui, t'es plus seule, t'es plus
exactement.
À bord, ouais, bien sûr. T'as et un paquebot derrière
exactement.
Toi.
Et donc c'est très honteux d'arrêter. Je suis assez admirative de, tu sais, dans ces séries télé où le mec débarque dans l'église et dit non, ne l'épouse pas.
Ah ouais.
Et la fille, elle se barre et elle grimpe sur le cheval avec lui.
Alors qu'il y aurait quelqu'un qui me dit le traiteur.
Le traiteur, il faut le payer là.
Il attend. Hein, la deux chevaux qu'on a loué là. Pour faire vintage.
Exactement, mais tu peux.
Et cette robe là, hein,
tu veux
ça
pas,
c'est de la dentelle de Calais, ça.
Ça, j'avais une robe avec de la dentelle de Calais.
Ah bah, tu vois, voilà.
Ne me juge pas.
Je ne te juge pas, j'adore. Je trouve ça magnifique. La dentelle de Calais, si vous nous écoutez. Alors, du coup, je fais un mini bond dans le temps. Donc, cette soirée se passe. Le lendemain est un petit peu déconcertant. Je pense que c'est compliqué, c'est beaucoup d'infos à processer. Comment se passe l'après-mariage? Est-ce que vous partez en lune de miel? Est-ce que vous décidez de faire quelque chose?
C'est exactement le climax. On part... en fait, notre cadeau pour notre mariage, c'était un mois en Australie.
Okay.
Donc, on avait fait une petite projection de notre voyage idéal. Et donc, tous nos amis, toute notre famille se réunit pour nous offrir ce cadeau incroyable. Donc, on part un mois en Australie. À ce moment-là, on est entre octobre et novembre 2015. Alors, je ne sais pas si ça résonne en toi, mais si on se pose un petit peu, novembre 2015, c'est marquant dans nos vies. Donc,
c'est
on part un mois en Australie,
Bataclan.
Tout à fait. On part un mois en Australie, on vit quelque chose d'assez incroyable, donc entre la barrière de corail, on voit les kangourous, les koalas. T'as déjà été en Australie?
Jamais, donc je bois tes paroles.
En tout cas, c'était vraiment l'image qu'on avait, l'image d'Épinal, depuis qu'on est gamin, on visualise ça, depuis Skippy. et donc on vit notre meilleure vie pendant un mois. Et on rentre de ces un mois avec des étoiles dans les yeux. Et c'était un vendredi et le week-end, j'avais un salon à Clermont-Ferrand. On salue Clermont-Ferrand.
Et Clermont-Ferrand, si tu nous écoutes, je vais faire ça à chaque fois.
Et donc, c'est la première fois depuis un mois qu'on se sépare avec mon mari. Donc, lui, il reste à Paris. Je descends à Clermont-Ferrand. Je suis évidemment éclatée par la fatigue. Et le lendemain matin, je dois me réveiller pour, évidemment, bosser. Et quand je me réveille, à 8h du matin, mon téléphone a littéralement explosé.
Explosé de...
De messages et de notifications. Donc, j'ai eu mon téléphone et il y a eu le Bataclan pendant la nuit. Mon mari est à Paris, moi je m'inquiète pour lui, il m'appelle, il me dit tout va bien et tout. Et donc je vis, je fais comme tout le monde, mon petit chemin à travers cet événement très traumatisant, où je visualise tous ces gens qui sont décédés, qui ont mon âge, qui ont notre âge. Mmh. Et je rentre à Paris, je pleure dans ses bras, et il me regarde très froidement, et il me dit « mais tu savais pas que le monde était comme ça ?» Et ça a résonné...
Tu sentais le décalage, là.
Exactement. Là, ça a été extrêmement violent. Où je me suis dit, on n'a pas vécu quelque chose comme ça. Voilà, on a vécu de manière très différente. Et là, pour le coup, j'ai besoin... Alors moi, je n'ai pas vécu. J'étais pas dans ce putain de Bataclan. Donc, j'ai pas vraiment le droit de me plaindre. Sauf
mais
que ça a résonné quelque chose. Ça a fait quelque chose. Ça a remué vraiment mes tripes. Et finalement, en fait, c'est un traumatisme et deux personnes qui réagissent de manière différente avec le traumatisme. Donc, moi, je veux évacuer. Et j'ai envie d'en parler. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de m'attrister. De me poser sur tout ça. Et lui est dans le déni. Est très froid. Et très philosophe sur la vie et ça déclenche quelque chose en nous, qui ai envie de profiter de la vie et de manière très festive.
Toi qui te dis que
la vie
est trop courte.
La vie est une fête.
La vie est un camping.
La vie est un camping. Et lui qui a envie de changer de vie.
D'accord. Et t'avais jamais décelé ça, peut-être ?
Absolument pas. En fait, je pense qu'à ce moment-là, sans parler pour lui, mais avec du recul, je le sais, il commence à perdre du poids, il demande à quitter son travail, etc. Il rentre dans une dépression. Où il s'interroge beaucoup sur la vie, le sens de la vie, son sens dans cette relation, son sens à Paris, pourquoi il fait ce qu'il fait tous les jours, pourquoi il se lève le matin dans un métier qui n'a finalement pas de sens, qui sont les gens qui font du bien sur cette planète. Donc, alors, tu vois, il commence à prendre vachement de recul sur son travail, il fait des choses très bien, il s'implique dans des associations, il maraude, etc. Il essaie de faire des choses qui prennent du sens, il se met à lire beaucoup.
Tu vois la différence très vite. Enfin, tu sens
la même personne.
Tu sens vraiment petit à petit de le voir changer physiquement et dans
complètement. Je le sens beaucoup plus négatif, beaucoup plus profond. Les discussions deviennent très difficiles, en tout cas très lourdes. Elles partent très vite. Il n'y a plus de légèreté dans le quotidien. Et à ce moment-là, moi, je commence à en parler avec un professionnel.
Tu décides quand même d'aller consulter.
Oui, et parce
pourquoi,
que
pour toi ou pour
oui
pour
cette moi
relation...
J'étais pas très bien et en fait on a évoqué à ce moment-là, donc on est en mars 2016, il a plus goût à grand chose et je me sens très malheureuse, très impuissante par rapport à ça et j'en parle avec un professionnel qui me dit qu'à ce moment-là il a énormément de gens qui consultent lié à ce qui s'est passé au Bataclan, que ça fait se poser beaucoup de questions, effectivement, sur notre sens, sur notre sens dans ce monde, sur notre génération aujourd'hui, sur ce qu'on fait tous les jours, etc. Donc voilà, j'échange un petit peu, mais sans aller en profondeur, c'était vraiment une petite consultation comme ça. Les mois passent, on laisse un petit peu couler. Je pars en vacances... mon anniversaire au mois de mai à Ibiza avec ma meilleure amie et mon frère et voilà une autre amie. Lui décide de pas venir, il avait pas envie, c'était pas dans le mood. Mais on passait de temps en temps des vacances séparées, c'était absolument pas un souci. Je pars là-bas, je fais la fête et je reviens et je le sens extrêmement froid, distant. Je me dis c'est fini.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ça tombe à ce moment-là. Est-ce que tu l'as senti quand tu étais à Ibiza? Est-ce que tu as senti quelque chose qui te donnait la puce à l'oreille? Est-ce que ça faisait un moment où tu te disais « ça va pas très bien, même moi j'ai envie de lui dire ou... »
Pour moi, c'était « on était insubmersibles ».
Donc quand il te dit ça, pour toi, c'est le choc.
Tu visualises l'Empire State Building?
Alors, je suis jamais allée à New York, mais
oui, bah, je tombe. Je tombe, je fais une chute libre. Donc là, je lui dis, comment ça?
C'est-à-dire?
Comment ça, c'est pas possible? Il me dit, mais je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini.
Mais il n'est pas sûr.
Avec beaucoup de douceur, c'est-à-dire qu'il essaie d'amortir la chute. Mais il a pris du temps pour réfléchir. Moi, je suis partie une semaine, je me suis...
C'est pas comme s'il te sortait ça pendant une dispute.
Non, tout à fait. C'était réfléchi, c'était posé. Il me dit, c'est terminé. Donc c'est terminé. C'est fini. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « je ne t'aime plus ». Il ne dit pas « je t'ai trompée » ou « j'ai envie qu'on divorce ». Il me dit « c'est terminé ». Donc, on est arrivé au bout d'une histoire.
Et tu cherches une raison à ça? Tu lui poses des questions?
Bien sûr.
Ou tu te dis juste « bon, bah, d'accord
enfin, ». Je lui demande. Ma première réaction, c'est évidemment l'ego. Donc, je lui dis « c'est pas possible, on est mariés, on vient de se marier ». Pas possible.
Parce que ça faisait combien de temps que vous étiez mariée là?
Ça faisait quelques mois, donc ça ne fait pas un an. Donc ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible.
Et, enfin, pour toi, dans l'idée que tu te fais du mariage.
Absolument. C'est-à-dire pourquoi? pourquoi avoir fait ça pour en arriver là ? C'est pas possible. Évidemment, t'as ta vie émotionnelle qui défile devant tes yeux, où tu te dis comment je vais dire ça, comment je vais assumer ça, impossible. Et il me regarde, il fait son sac, il me dit il faut qu'on arrête là avant de se gâcher, mais je vais partir et tu vas décoller.
C'est-à-dire, tu vas décoller.
Alors, je pense qu'à ce moment-là, il a pris énormément de recul sur ce qu'on était. Donc, on a 28 ans. On n'a pas vécu grand-chose à part ensemble. Et il a sans doute la bienveillance de se dire que j'ai des choses à vivre, comme lui a des choses à vivre.
Et qu'il se dit, en fait, elle sera peut-être même mieux sans moi.
Exactement. Et je pense aussi qu'il était dans une phase très dark, très de remise en question personnelle, dans laquelle il n'avait pas envie de m'emmener, de me tirer, tu sais, en bas.
Oui, donc... mais c'est dur quand tu as des sentiments et quand tu aimes quelqu'un. Je pense que c'est très compliqué de...
Complètement.
Il faut beaucoup de courage pour annoncer à quelqu'un qu'on...
Je n'avais aucune motivation ou raison à ce moment-là, et encore maintenant, des années plus tard, à le détester. C'est-à-dire que c'est la chose la plus triste, mais la plus bienveillante qu'on ait jamais fait de toute ma vie. Il me regarde dans les yeux, il l'assume, il zippe son sac devant moi. Il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de fuite.
T'essaies de l'en dissuader quand même.
Je lui dis, bon, on ne peut pas, on vient de se marier, mais je t'aime. Et lui, il me dit qu'il m'aime aussi, mais qu'on arrivait au bout et qu'il n'y a plus rien à vivre.
Donc lui, il était sûr de lui.
Très sûr. Je pense qu'au fond, il devait être fébrile, parce que évidemment, c'est difficile de quitter quelqu'un, ça projette plein de choses. Lui, c'était un échec aussi de vie personnelle, parce qu'il a vécu beaucoup de ruptures dans sa vie d'enfant avec ses parents. Donc c'était quelque chose voilà, qui lui a demandé beaucoup de courage. Mais tu vois, même le fait de m'avoir dit à ce moment-là « je veux pas qu'on se gâche », c'est aussi... je suis extrêmement reconnaissante en tant que femme d'avoir eu un homme en face de moi qui a le courage de me dire ça au lieu de peut-être vivre une double vie ou en tout cas gâcher notre histoire.
Et quelqu'un qui croyait beaucoup en toi aussi ?
Complètement.
Parce qu'à ce moment-là, c'est plus, il a l'impression qu'il faut qu'il te laisse pour que tu puisses voler de tes propres ailes. Toi, tu le ressens pas du tout comme ça à ce moment-là.
Ah, sur le moment, j'ai envie de le tarter, de lui dire mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je vois à quel point il avait vu juste.
Comment tu décides de prendre les choses en main ?
On est en juin, je pleure concrètement sur mon canapé pendant 3 semaines. Je ne me nourris pas parce que je comprends qu'il faut se nourrir soi-même et qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai quand même 10 ans de vie en commun avec une autre personne. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'être un animal abandonné qui doit tout réapprendre. Réapprendre à se nourrir, à interagir avec les autres. Qu'est-ce que je suis dans ce monde est-ce que mes amis m'aiment pour moi ou pour notre couple ? Est-ce que j'ai des choses à dire ? Est-ce que j'ai un avis ? À moi, je vote pour qui, j'aime quoi comme vin,
c'est quoi tes opinions.
Exactement. Donc là, j'ai tout à réapprendre. Donc je pleure pendant 3 semaines. Mon frère, qui est plus jeune que moi, s'assoit sur le canapé. Je me souviendrai toute ma vie. Il me regarde et je lui dis Julien, je suis toute seule. Et il me regarde et il me dit mais Florie, on est toujours tout seul. Et c'était tellement...
C'est pas ce que tu voulais entendre.
Mais c'est tellement vrai.
C'est tellement vrai, mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là.
Ça a été violent, et tu vois...
C'est d'une vérité incroyable, mais...
C'est extrêmement troublant, parce que sur le coup, ça m'a effondrée, parce que je me suis sentie très abandonnée, mais ça a été quelque chose qui a nourri tout ce qui arrive ensuite, c'est-à-dire, ok, on est seul, c'est vrai, on est seul, en fait. On est... Seul. Et il faut deal with it, tu vois. Il faut que j'apprenne à connaître qui je suis, à avancer toute seule. Et si j'y arrive, je serai une putain de meuf, en fait. Tu vois. Et ça a fait son chemin. Donc là, on est en juillet, on est en août.
C'est l'été, donc c'est parfois.
C'est l'été,
un petit peu l'occasion de, voilà, de sortir un peu plus.
Ah ben à ce moment-là, je vais te dire.
Quand on pouvait sortir.
Moi, je suis brune depuis 28 ans. À ce moment-là, je vais chez le coiffeur, comme n'importe quelle meuf qui se fait larguer. Et je passe blonde.
Et je suis toujours blonde.
En fait, c'est comme si je voulais créer une transition avec la femme que j'étais avant, en tout cas la fille que j'étais avant, et devenir une femme. Alors, être blonde, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vas confirmer Léa ou pas, mais c'est attirer le regard des hommes aussi. En tout cas, essayer de dealer avec sa féminité, parce que mine de rien, il y a aussi un acte, en tout cas, je pense, quand je me suis teint les cheveux, un acte d'assumer sa féminité et d'assumer le fait qu'on puisse te regarder comme une espèce de personne qui s'est transformée. Je ne sais pas comment exprimer ça.
Je suis un peu d'accord, parce que quand moi, j'ai décidé de devenir blonde, c'était il y a très très longtemps. j'ai toujours eu plutôt les cheveux clairs, mais pour moi, c'était... Alors, à la base, attirée sur autre chose que mon visage ou mon corps. C'est trop bizarre, mais j'avais le sentiment que... Mais ça, c'est un peu le regard masculin, mais j'avais l'impression que les hommes préféraient les blondes. Mais
Tu sais ce que dit Marilyn Monroe ?
C'est si faux.
Marilyn Monroe disait « Les hommes préfèrent les blondes parce que les blondes savent ce que les hommes préfèrent. » Et on doit vivre avec cette putain de phrase dans l'imaginaire des gens. Mais en tout cas, en fait, c'était pas tant pour quelque chose d'érotisant.
Si t'étais blonde, tu te serais passée brune. Enfin,
exactement.
Ça va dans les deux sens,
en fait. Ou je serais peut-être devenue rousse. En fait, c'était Alors, je vais te dire de manière très concrète. J'avais envie de couper 15 ans de photos, de souvenirs avec mon ex.
Donc, t'avais envie d'être une nouvelle personne.
Il y avait
sur les photos
avant et après. C'est-à-dire, là, c'est la nouvelle Florie qui débarque. Donc, je suis quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est une réappropriation de sa personne, de son être. C'est oser faire un peu la badass à un moment donné et se différencier du avant et du après. Je suis devenue blonde et je commence à ressortir.
Donc là, tu ressors. Est-ce que tu décides ou est-ce que tu as l'impression que tu peux séduire à nouveau ?
Alors, j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas cassée.
Tu n'es pas cassée de l'intérieur.
Je ne suis pas cassée de l'intérieur. Je suis triste, je suis très triste. Mais mon estime de moi est intacte.
Ah bon ? Parce que souvent, quand même, après une rupture, c'est quand même l'estime de soi qu'on prend un gros coup dans l'aile, quoi.
Alors, j'ai été abandonnée, mais j'ai quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit « t'es géniale ». T'es génial, je sais ce que tu vaux, tu vas aller loin et il faut qu'on arrête avant de se faire du mal. Et finalement, au fond, j'étais assez d'accord, c'est juste que j'avais pas les couilles de le dire, c'est tout.
Et lui, il n'avait pas les ovaires.
Exactement, mais lui, il les a eus. Et à ce moment-là, on est du coup été 2016, on est séparés depuis un mois et là, je me remets dans le game, quoi. J'arrive, blonde platine.
Des games, des dates ?
Alors, d'abord des clubs parisiens, donc je commence à ressortir, donc j'embarque toutes mes copines. J'étais de... Ça, c'est à propos.
C'est terrible.
Donc, je deviens très, très fun, un objet très, très fun auprès de mes copines célibataires, parce que je suis la nouvelle célibataire du gang. Et donc, on commence à sortir, etc., en club et
Est-ce
tout.
Est-ce que tu sors plus qu'avant ?
Je pense que je m'assomme d'alcool, je m'étourdis de danse et de numéro de téléphone.
Elle danse si bien.
Non, mais c'est vrai que je sors beaucoup à ce moment-là parce que j'ai pas envie de dormir seule.
T'as pas envie de penser.
J'ai pas envie de rentrer dans mon lit vide. Faut savoir que je suis quand même restée dans l'appartement du couple. Donc je vis à ce moment-là dans le cimetière de notre histoire. Même si j'ai essayé j'ai repeint un mur, enfin j'ai fait vraiment le truc à la Sex and the City, hein. Tu sais, tu t'enlèves tous les souvenirs, tu les mets dans une boîte, tu repeins un mur, tu déplaces le lit et tu penses que tout va bien. Donc j'ai vraiment fait ça et tu te teins les cheveux, tu vas sortir, tu rencontres Mr Big, Mr Machin et puis tu vis euh, tu vis la vie de célibataire. Alors, on est au mois d'août, on boit plein de rosé, plein de vin blanc, il y a de la musique, il y a des clubs. Souvenez-vous, l'histoire de Paris, tu fais sortir, il fait chaud, tout le monde danse et tout, c'est la grosse fête.
Et plus en plus du climat général, genre tout le monde en terrasse, allez, on sort, on lâche rien. Il y avait beaucoup ça aussi après cette année, enfin cette année-là qui a été
plus que jamais.
Plus que jamais, je pense qu'on était vraiment tous en mode on sort, on est là. Je pense que c'est partout en France, hein, c'est pas que Paris parce que voilà, Paris y a énormément de terrasses, mais je me rappelle très bien de cette année aussi et célibataire ou pas. Hein,
c'était l'année de la fête.
Bien sûr.
C'était Paris doit survivre, Paris doit s'éclater. Et du coup, j'avais plein d'amis de sorties. Et en fait, je me noyais à ce moment-là dans ces sorties-là parce que j'avais envie de savoir ce que je valais. Alors, c'est drôle parce que pendant 10 ans, j'ai eu aucun doute sur le fait que quelqu'un m'aimait et donc que je valais quelque chose. Au moment où cette personne s'en va, elle s'en va avec l'estime que t'as de toi, ou en tout cas une espèce de miroir de toi-même. Et donc, tu sais plus trop ce que tu vaux. Et t'as 29 ans, t'arrives dans le game du célibat à Paris, c'est une putain de jungle.
Ah oui, toi, tu l'avais pas connu.
Je n'avais pas connu, je suis arrivée à Paris, j'étais déjà en couple, j'étais même d'un point de vue sexuel, j'étais très conditionnée par une vie de couple. Donc, je ne savais pas du tout ce que je valais, comment interagir avec les hommes. Je me souviens encore parler avec mes copines en mode « Mais du coup, c'est comment ? Il y a des apps ? Mais alors, c'est quoi Tinder ? Ça marche comment ? » Et du coup, s'il te dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il veut te ramener chez toi, chez lui ? Est-ce que... Donc je commence à fréquenter des hommes. Je me souviens très bien que les premiers émois se passent avec des hommes que je connais déjà, qui sont déjà des amis ou des potes ou des connaissances parce que j'avais besoin d'être rassurée. Voilà, les sorties, etc. Je commence à découvrir un petit peu Tinder.
Et là, ça doit être la révolution quand même parce que...
C'est incroyable. C'est comme une Natacha Campouche qui découvre Internet, tu vois. Genre, c'est atroce ce que j'en dis.
Je pense que t'as raté ça parce que t'étais en couple et que c'est normal que t'aies pas eu à tester ce genre d'application. Et t'as débarqué, je trouve, à mon sens, assez tard. Mais il n'y a pas d'âge hein, pour débarquer dans les applications. Mais du coup, tu découvres un monde que nous, on a... Enfin, nous, ceux qui ne sont pas en couple depuis 10 ans, on les a découverts depuis longtemps. Donc, mais on sait les utiliser.
Donc, je n'avais pas les codes.
Moi, j'avais les codes. Je savais qui fallait... Enfin, en une simple photo de profil, je pense que j'étais plus ou moins capable de déceler si c'est un homme qui...
Mais Léa, maintenant, je reconnais les charros hein, en 2-2. Mais
bon,
sauf qu'à l'époque...
S'il pose avec un tigre, Flori, il ne faut pas y aller.
Non, mais c'est-à-dire que j'aurais... Oui, je pense que je ne voyais pas le problème avec les selfies salle de bain à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ?
Oh, ma peau, j'aurais aimé t'enlever tellement de problèmes.
Mais oui, mais en même temps, il fallait en passer par là. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'arrive là, j'ai 29 ans, mais en fait, j'en ai 19. Tu sais, je pense que pendant ces 10 ans, j'étais très heureuse, mais j'avais cette petite voix en moi qui me disait « T'as pas connu ça, t'as pas connu les applis, tu connais pas ce que c'est d'aller faire la fête, de rentrer bourrée avec quelqu'un que tu connais pas, de te préparer pour dater. » Attends, je n'avais jamais eu une date en me disant « Je vais me préparer, je vais m'épiler les jambes, je vais mettre telle robe. Non, je mets plutôt cette robe. » Ce que je voyais dans les séries télé, ce qu'on m'a vendu, je ne le vivais pas. Donc j'avais au fond cette petite frustration en me disant « Bon, j'ai un super mec, c'est top et tout, mais je suis passée des bras de mon père aux bras de mon mec, quoi. Et j'ai jamais vécu le célibataire à fumer des clopes dans sa chambre, à appeler ses copines. Est-ce que je dois mettre ça ? Est-ce que je m'épile ? Est-ce que je couche le premier soir ?» Enfin, c'est vraie question que tout le monde se pose. J'étais pas passée par ça. Donc, cette phase de célibataire adolescent ou post-adolescente de 19-20 ans, là, je le vis à 29 ans. Sauf que j'ai plein d'autres choses à dealer. Je suis à mon compte, chef d'entreprise. J'ai plein de choses à penser.
Ta maison d'édition.
J'ai toujours ma maison d'édition. Je suis propriétaire de mon appart. J'étais en plein divorce à essayer de récupérer les choses, etc. Je suis une femme de 29 ans sur les applis avec la tête de quelqu'un de 19 ans, donc je rencontre que des charros de 24-25 ans qui veulent faire la teuf, et c'est ce que je cherche aussi. Et
donc, j'allais dire, est-ce que c'est ce que tu voulais à ce moment-là ?
Je voulais, absolument, je voulais me confronter à cette réalité-là, j'avais envie de savoir évidemment ce que je valais, et surtout pas m'engager dans quelque chose, j'avais envie de vivre, de rattraper.
Donc, je comprends. Et pour moi, l'épreuve des applications de rencontre, c'est une épreuve très, très difficile.
Complètement. Et tu sais quoi ? Avec 10 ans avec quelqu'un, mais ça aurait pu être 10 ans de célibat ou peu importe. En fait, tu te retrouves comme devant une page blanche et j'étais incapable de dire qui j'étais.
Et qu'est-ce que tu avais mis en bio ?
J'avais dû mettre des émojis, je pense, quand on
sait pas. Quand on sait pas quoi mettre,
on met des aubergines.
Je pense. Alors, pas comme ça, mais j'avais dû mettre une danseuse et des shops de bière. Donc, évidemment, que la meuf est fun.
J'aime danser, boire de la bière.
Mais en tout cas, j'étais incapable de mettre des mots. Qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis drôle ? Est-ce que je suis chiante ? Est-ce que je ne savais pas. J'avais 10 ans et rien d'autre. Je le sais maintenant, on est très différents d'une relation à une autre. Et finalement, on se réinvente. Et j'étais tellement conditionnée dans cette relation que je ne savais pas qui j'étais en tant que personne. Et là, je me suis dit, il faut que je vive le célibat pour savoir. Et donc, je voyais ces rencontres comme quelque chose qui allait pouvoir me faire sortir de moi-même, tu vois, qui allait pouvoir me identifier un petit peu qui j'étais. Donc, à chaque relation, à chaque rencontre, à chaque histoire, j'arrivais un peu plus à identifier ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'étais, ce que je projetais. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un d'ouvert, de taciturne, de joyeux, de... Qu'est-ce que j'ai au fond de moi ? Qu'est-ce qui me ressemble ? Qu'est-ce qui me ressemble pas ? Etc. Donc voilà, quelques mois estivaux à Paris, à l'époque où il y avait des clubs et des bars, à dater et à visualiser un petit peu qui est Florie dans ce monde célibataire. Quand tu sors d'une longue relation, je me mets un peu dans tes baskets, forcément que t'as pas non plus envie de rencontrer n'importe qui. Donc quand bien même tu sais que ça va pas être une histoire qui va durer des plombes, même si c'est une nuit ou deux heures ou juste un verre, t'as pas envie de tomber sur quelqu'un qui te correspond absolument pas.
Surtout que j'ai une estime incroyable pour mon ex. Incroyable.
Et oui, c'est dur.
Il est parti comme un prince avec beaucoup de classe. Et
Est-ce que tu le dis ça à tes dates, par exemple, genre je viens de me séparer d'une relation très longue.
Ah, très très vite. Il demande en général un petit peu ton background et très vite. Donc j'ai 29 ans, je commence mes dates et je dis oh bah je suis en plein divorce. Et ça met tout le monde à l'aise.
C'est un peu inédit parce que à notre âge, c'est très rare d'entendre quelqu'un qui dit j'ai été divorcée ou je suis divorcée. Et toi, la première fois que je t'ai rencontrée, c'est quelque chose que tu as dit très très vite. Et j'étais un peu déconcertée parce que c'était la première fois que je l'entendais de la bouche de quelqu'un qui avait mon âge. Mmh. Et d'un côté, je me dis mais genre pourquoi ça me choque alors que ça devrait pas me choquer, genre. Mais t'étais le seul exemple que j'avais sous la main de quelqu'un qui s'était marié et divorcée avant 30 ans.
Ouais, j'ai eu du coup 11 mois de mariage. Et j'ai pas du tout honte de le dire. Hein.
Mais
c'est 11
Kim
mois
Kardashian a fait beaucoup moins
tout à fait
avec son premier mari.
Je me suis dit, c'est ma chance.
Oui,
en fait, c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que c'était un moment triste. J'étais à la fois triste et en même temps, j'avais pas envie de m'apesantir sur ma peine en me disant, c'est peut-être l'occasion de ma vie, en fait. C'est peut-être l'occasion de ma vie d'être moi, d'être une femme, de vivre tout ce que j'ai toujours vu. Alors, tu sais quoi ? Tout ce que j'ai toujours vu dans les séries, tout ce que j'ai toujours vu dans les films, tout ce que j'ai toujours potentiellement envié de mes copines quand elles avaient des peines de cœur, quand elles rencontraient des gros charros et qu'elles me racontaient leurs histoires de cul. Et je me disais, peut-être que moi aussi, je vais vivre ça. Et en même temps, ça fera de moi quelqu'un de normal.
Mais je pense que, et ça revient très souvent quand je discute avec toi, c'est ce truc des séries télé et des films. Je pense que tu t'es énormément identifiée, mais identifiée dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu te disais que tu ne vivais pas du tout la vie. Alors, t'as été comme moi, été élevée à Sex and the City et Friends,
et Gossip Girl un peu plus tard.
Exactement. Donc, et c'est pas forcément aujourd'hui, quand on regarderait les séries, ça nous ferait bondir parce que il y a des choses qui vont pas. Enfin, il y a des choses dans la représentation de la femme et même des femmes entre elles. Qui, moi, me choque énormément aujourd'hui.
Mais maintenant, quand je revois, je vois à quel point on était conditionné dans quelque chose qui n'était pas normal.
Et ça, tu t'en rends pas compte quand t'es plus
jeune. Tu trouves juste ça cool. Elle porte des super robes et elle date des super mecs. Et
oui, parce qu'elle est dans une relation méga toxique et que ça. Alors ça on ne gêne y vient. Personne.
On y vient.
Je tends la perche. Est-ce que ma question, du coup, est la suivante. Est-ce que après toutes ces dates, toute cette remise en question et puis ce nouveau toi, voilà, finalement, est-ce qu'on arrive à trouver une nouvelle relation qui nous convient? Est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui nous donne envie, voilà, de retenter l'aventure?
Donc, on est en décembre 2015, donc ça fait pas si longtemps qu'on est séparés, ça fait 7 mois, 8 mois, et j'ai un... 2016, pardon. J'ai un voyage qui arrive à New York pour le boulot, parce que je viens de sortir un bouquin sur New York et on doit en faire la promo. Je pars à New York pour la première fois sans mon ex, parce qu'on y avait déjà été ensemble. Et j'avais fait quelques voyages avant ça. J'étais partie, je roulais un peu toute seule, je louais des voitures, j'étais partie en Guadeloupe, tout ça. J'avais envie, tu vois, de... Tu sais, tu pars... Tu
la baroudeuse.
Non, mais tu fais 10 ans...
La baroudeuse de l'amour.
Non, mais tu fais 10 ans de voyage avec un mec. Mine de rien, on n'en parle pas assez, mais... T'es sur ce putain de siège passager. Je suis désolée, mais tu ne conduis pas la barque.
Tu ne conduis pas le 4x4.
Exactement. Et là, je me suis dit, putain, j'ai ma carte bleue. Je peux partir. Je conduis. C'est moi qui drive. Je décide où je vais, où je dors, ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de parler. Et ça, c'est une putain de révélation. Là, j'ai envie de m'arrêter, de boire un coup, toute seule, en terrasse, et de discuter avec mes voisins de table. Tu ne fais jamais ça quand t'es en couple. Ou en tout cas, je n'avais jamais fait ça en étant en couple. Et à ce moment-là, je redécouvre un petit peu aussi qui je suis. Et donc, je pars à New York. Donc, avec cet auteur, on part là-bas. Et je me fais, voilà, des potes sur place et tout. Je vais dans un bar à Brooklyn. Je bois des coups. Tu vas te dire, je bois beaucoup. Mais oui.
Je pense qu'il y a un moment donné
où... Faut se poser des questions. Non, mais en tout cas, voilà, c'était un samedi soir. Mon collaborateur me dit, je vais te présenter un ami. Voilà, on dîne et tout. Il débarque. Et là, j'ai un putain de coup de foudre.
Un crush. Un crush ou un coup de foudre?
Violent.
Mais coup de foudre ou crush?
Je pense que c'était un coup de foudre dans le sens où... tu sais que là... Là, il se passe un truc qui va un petit peu te perturber. C'est pas un crush où tu te dis... Alors, j'étais déjà fragile à ce moment-là. C'est peut-être ça qui fait que c'est un coup de foudre. Hein. La foudre, quand on la prend, ça fait jamais de bien. Oula.
Il me fait quelque chose.
Il y a un truc qui se passe. Donc, cette personne arrive dans ce bar et...
Est new-yorkais?
Il est new-yorkais, il habite là, il a... Voilà, il vit là depuis 8 ans. À l'origine, il est français, il a les papiers.
Ah, donc il est français, vous parlez en français?
Absolument. Il débarque et c'est vrai qu'on se regarde et il se passe un truc assez électrisant. Et tu sais, ce truc où il n'y a plus personne autour, où tu ne sais même plus où tu habites. Et d'un coup, bah, tu te rends compte que tout le monde est parti. Et toi, tu es encore avec la personne. Et donc, il m'amène dans un club à côté. On boit des verres et puis on s'embrasse. Et c'est la première fois à ce moment-là que j'embrasse quelqu'un avec, en ressentant quelque chose.
Depuis ton mari.
C'est ça. Donc là, je me dis, ok, donc ça existe encore. Ça, okay. C'est une première révélation.
Petite foi en l'humanité. Est-ce que t'attendais pas un peu que ça, genre,
je pense.
Un homme qui te tend la main et qui te dit, viens, je t'emmène. Après tous les dates que t'as fait, les gens que t'as rencontrés, est-ce que c'est pas ce dont t'avais envie à ce moment-là?
Mais complètement. Et puis, tu sais, il y a un petit côté, on en reparle encore, mais c'est très fantasmagorique, c'est très dans notre culture pop, tu vois. T'es à New York, tu rencontres un New Yorkais, il t'amène, voilà, tu traverses, tu vas de Brooklyn à Manhattan. Et puis.
T'es un peu en train de boucler la boucle, quoi.
Exactement. Je vis exactement ce que je voyais dans ma chambre à 14 ans, ce que j'avais envie de vivre quelque part. C'était un petit peu le petit dream émotionnel et en tout point. Et donc, je rencontre cette personne, on vit quelque chose d'assez intense et passionnel pendant quelques jours. C'est quelques jours de... J'ai envie de dire de vacances, c'était du travail, mais du coup, j'ai absolument tout abandonné à ce moment.
Ah bah là, il n'y avait pas le choix. Hein.
C'est assez déroutant parce que mon travail était très important et là, je fais un peu tout entre parenthèses. Et je vis cette folle passion pendant quelques jours et je rentre chez moi. Je
rentre chez moi à Paris et je me dis, bon, j'ai vécu, ça y est, j'ai vécu cette petite passion à l'étranger, c'était absolument magique. Tu sais, c'est le petit truc, la petite anecdote que tu vas pouvoir raconter à tes copines. J'ai rencontré un mec, c'était incroyable, on a bu des coups à Brooklyn, on a vécu les 400 coups, il m'a mis dans tel resto, c'était magique, on a été sur rooftop machin, et puis...
Tu te projettes pas dans le,
absolument pas,
dans le futur. Pour toi, c'est quelque chose qui est passé.
Moi, à ce moment-là, je suis quand même... J'ai verrouillé toute émotion parce que j'ai eu quand même très très mal, c'est récent et je suis extrêmement cynique.
Donc il a beau te plaire, au final,
je
de
visualise.
Toute façon, t'as déjà vécu ce que t'avais à
absolument.
Vivre en termes de relation.
Et puis d'un point de vue, sur le papier, c'est absolument l'opposé en tout point de la personne à qui j'étais. Mon ex-mari était mon complément absolu, c'est-à-dire tout ce que j'étais, il était le moins. J'étais le plus et il était le moins, donc on était vraiment yin-yang. On se complétait beaucoup. Et là, cette personne me ressemble énormément. Très expansive, à parler très fort, à être beaucoup dans l'excès, etc., etc. Donc, en gros, ça pourrait être un super pote, mais enfin, je vois très bien que ça ne peut pas fonctionner.
Tu te dis que ça ne peut pas fonctionner déjà d'emblée?
Très vite. Mon cerveau savait très bien que ça ne marcherait pas.
D'accord.
Je savais, même avec le peu de recul de relation que j'avais, je savais quand même ce qui me convenait, ou en tout cas ce qui me rendait heureuse, parce que j'ai été heureuse pendant 10 ans, donc je sais ce qui me fait du bien. Et j'ai très vite capté que cette personne était instable et me rendrait instable émotionnellement.
Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez lui?
Bon, il était très magnétique,
très charismatique,
très charismatique, très beau, très. Tu dis ça à n'importe quelle nana. Enfin voilà, il avait un côté très artiste. Il faisait de la musique. Il parlait fort. Alors, il avait un petit côté Pygmalion aussi. Il avait 10 ans de plus que moi. Et vivait à New York, ce qui peut paraître superficiel, mais finalement c'est aussi un monde qui s'offre à toi que tu ne connais pas, donc il y avait un côté très encore une fois très Pygmalion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cette histoire très épisodique et surprenante, cette amourette de vacances, et 24 heures plus tard il prend un avion et il débarque devant ma porte et il me dit c'est toi, il faut qu'on vive quelque chose, et il s'impose chez moi.
Tu t'y attendais?
Absolument pas, mais en même temps, c'est un élan très romantique. Je me dis, waouh, on n'a jamais fait ça pour moi. Il a pris un billet, il vient avec des fleurs, il débarque chez moi, il reste 2 semaines.
Waouh!
Il veut qu'on fasse plein de choses, il me reprend un billet, il veut m'emmener dans tel pays, on va au Costa Rica, il me ramène à New York, etc. Voilà.
Et là, folie folle.
Exactement. À ce moment-là, tu n'as plus de vie à toi. Parce que cette personne qui veut te faire vivre des choses incroyables et qui met tout en œuvre pour le faire, t'impose un petit peu des choses surprenantes qui te sortent de ta ligne. Moi, j'avais prévu d'aller voir ma cousine qui vivait à Séville. Il me prend des billets en même temps pour aller à New York. Et je me dis, ok, génial, je vais à New York, je vais le voir, c'est trop bien.
Tu mets un peu ta vie entre parenthèses.
Complètement. T'as pas le choix, parce que du coup t'es en train de vivre quelque chose d'assez magique aussi, de très romantique, et du coup t'as envie d'y aller,
t'as envie de savoir.
Ouais, t'as envie de... C'est un peu une chance. Donc voilà, on commence à vivre une relation à distance. Relation à distance en même temps très passionnelle, donc on arrive à se voir toutes les 3 semaines. Toutes les trois semaines.
Paris-New York
pendant 1 an et demi.
Un an et demi, ça a duré?
Ouais. 1 an et demi, donc je fais une 20aine d'allers-retours à New York.
Et quand je vous ai rencontrée, ça faisait combien de temps que vous
avez... C'était sur la fin.
D'accord.
Ça faisait un peu plus d'un an, et en fait, on a évidemment... tous les gens qui vivent une relation de distance savent à quel point c'est compliqué. Donc, mais on avait en plus le décalage horaire, qui fait que tu ne peux jamais être en phase dans ta journée avec la personne, et qu'elle vit une vie quand toi t'es en train de dormir, donc c'est très déstabilisant. Et en plus, j'étais dans une relation qui était très déséquilibrée, parce qu'effectivement j'étais avec quelqu'un de plus vieux, très sûr de ce qu'il voulait,
à imposer beaucoup ses choix. Et donc, on arrivait à un point de non-retour où il voulait m'imposer de quitter ma vie, de quitter Paris, de quitter mon travail, de quitter ce que j'étais en train de construire, en dévalorisant un petit peu ce que je faisais aussi, parce que pour lui, ça n'avait pas de sens.
En mode, je vais prendre le relais, t'inquiète pas, viens.
Exactement.
Et moi, je m'occuperai de tout, quoi.
C'était une vie que j'avais déjà quittée. Et j'avais pas du tout envie de retourner là-dedans. Et avec du recul, j'avais une vision assez morbide de la chose, parce que c'est comme s'il me réattirait dans un univers de couple qui ne me convenait pas, tu vois. J'avais pas réussi à affirmer, à sortir de ma période adolescente, de crise d'adolescence. J'étais à peine dedans, j'avais à peine commencé à comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce que je valais et vers où j'allais. Et il était en train de me prendre ça. De me prendre ça et d'imposer une relation très dans le contrôle. Et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans une relation toxique que j'ai sans doute acceptée. Je ne vais pas dire que...
Tu l'as ressenti comme ça, toxique dans le sens où tu n'avais plus vraiment ton mot à dire sur la suite des opérations
Complètement. Je pense avec du recul qu'on ne tombe pas sur ce type de profil par hasard, dans le sens où j'étais un peu faible. J'avais envie aussi de comprendre pourquoi ma relation précédente s'était terminée. Donc j'étais vraiment dans le improve, tu vois. J'avais envie de me tester. Donc j'étais dans quelque chose de très excessif. Et je me laissais un petit peu aller par quelqu'un qui avait un peu plus de force. Je pense que j'étais fatiguée émotionnellement aussi, de devoir un peu lutter pour tout. Et donc je me repose à ce moment-là sur cette personne qui me donne énormément. Alors que j'étais un petit animal blessé, j'étais ce petit chat à la SPA qui a été laissé pour compte et qui a vécu des bons moments en terrasse à Paris, mais qui malgré tout reste seul dans son box avec plein d'autres chats autour qui sont dans des jolis petits foyers, parce que mine de rien, à ce moment-là, j'ai 29 ans, donc je commence à avoir des copines qui ont des enfants. Et ce chat dans le box, il a quand même envie d'avoir un désir d'adoption. Et donc, quand je rencontre cette personne qui a 40 ans, qui a envie de se poser et de faire des gosses, je reste quand même alerte et je suis touchée par cet élan affectif.
Et tu te dis encore que ce serait dans la normalité des choses, du coup, à cet âge-là, de se poser, d'avoir des enfants, chose que tu n'as pas pu vraiment faire à cet âge-là, enfin, par exemple, à l'âge de ta mère, à 23 ans, là, de te dire, bon, bah, c'est l'âge acceptable, ce que la société veut bien nous dire, genre, ah, c'est bien d'avoir des enfants vers 30 ans, avant 30 ans, voilà, tout ça, en tout cas, assez jeune.
Mais complètement. Et tu sais quoi, quand j'ai commencé à parler de cette personne, enfin, de ma relation avec ce mec-là, toutes mes copines m'encourageaient à mort. C'est-à-dire que j'avais 30 piges. Je rencontre un mec successful qui vit à New York, qui a 40 ans, qui a envie de se poser, qui a envie de prendre soin de moi, qui est très affectueux, qui me fait des cadeaux, qui me lit des fleurs, qui débarque à tout moment de ma vie. C'est-à-dire quand je suis au travail avec des potes, qui me sort de tout ça et qui m'emmène. Donc, très contrôle, tu vois. Mais d'un point de vue extérieur, c'est génial. Et donc, tout le monde m'encourageait à prendre cette vie-là, à la saisir. Parce que c'est
un peu le truc qui sort de nulle part. Enfin, oui, t'as envie d'encourager la personne à côté de toi parce que tu te dis, bah, ça arrive pas tous les mardis, quoi.
Mais j'ai appris à ce moment-là que finalement, on sait jamais ce qui se passe dans la porte, tu vois, d'un couple. Parce que je pense que j'ai rarement été aussi malheureuse de toute ma vie. Alors que j'avais tout, c'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui me donnait beaucoup d'affection, qui était extrêmement beau, extrêmement, qui me faisait vivre des choses assez géniales et tout, mais qui me rabaissait, qui me faisait me sentir inutile, qui me faisait courir derrière le moindre signe d'affection parce qu'il m'en avait donné beaucoup et d'un coup il retirait tout. Donc il y a un mouvement, une mécanique en tout cas assez, assez perverse, en tout cas qu'on a mis en place ensemble, je saurais pas te dire.
Tu te sens complice un peu de
Je me sens complice, je culpabilise un petit peu de ça, dans le sens où je l'ai laissé faire parce que j'étais... je pense que je voyais ce qu'on était en train de faire. Et finalement, j'étais dans une phase où j'avais besoin de sentir des douleurs, des peines, de me reprocher des choses, d'être dans le drama, parce qu'on n'a jamais eu de drama avec mon ex-mari. Ça s'est terminé de manière tellement saine.
J'ai tout vécu en condensé sur une autre relation. En fait, tu t'es dit, je vais faire complètement l'inverse.
Et donc, je suis tombée sur cette personne. J'étais quelque part une victime. J'ai accepté d'être cette victime-là. On a vécu des choses extrêmement excessives. J'ai éprouvé toutes les étapes de vie d'une femme pendant un an et demi, dans un moment très raccourci.
C'est-à-dire
que je suis tombée enceinte, j'ai avorté, j'ai vécu des excès de drogue, j'ai vécu... et en même temps, l'amour passionnel, où tu, pendant un an, tu n'as même pas le temps de regarder une série Netflix, tellement tu passes du temps avec cette personne, et que c'est intense, et que cette personne te manque en tout point, et quand elle est présente, t'as juste envie de te foutre en l'air, tellement c'est
trop
douloureux que cette personne soit là parce qu'elle te fait du mal. J'ai perdu 10 kilos en quelques mois. Lui a vécu des choses aussi assez terribles. Il a perdu son père au moment de notre relation, donc ça a été terrible. Et en fait, on a vécu tout ça en accéléré, dans un moment de transition. Lui, 40 ans, moi, la trentaine. J'ai vécu mes 30 ans avec lui. J'ai vécu l'annonce de mon divorce avec cette personne. Donc, je pense qu'on s'est quand même apporté une espèce de transition, mais dans la douleur la plus intense. Et on a rompu 6 fois, je pense, ensemble, dans les drames les plus absolus. Tu sais, ces couples qu'on voit dans la rue qui surent le dessus. Cette fille qui pleure dans le restaurant parce que le mec lui parle super fort et elle baisse les yeux. J'étais dans cette posture-là et j'ai vu mes amis partir petit à petit. Parce qu'ils te disent, là, il faut que t'arrêtes, mais tu ne les écoutes pas, tu veux aller au bout de ta connerie, donc tu finis par perdre tes amis. Et mon frère m'avait dit, Julien m'avait dit, tu vas perdre tout le monde là. Là, tu vas perdre tout le monde, t'es en train de briller. Ouais. Et ça a fait un petit déclic, et j'avais besoin... En fait, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'on se met dans En tout cas, moi, je me suis mise dans cette relation. Peut-être pour exorciser ce que j'avais vécu avant et peut-être pour éprouver un maximum d'émotions, de palettes d'émotions pour savoir qui j'étais. Mm-hmm. Mais j'ai aussi choisi cette relation pour devenir forte. Il fallait que je sois face à un Goliath, tu vois, et que j'arrive à m'en sortir.
J'ai l'impression que c'était comme un parcours d'initiation.
Exactement.
Genre, si j'arrive à passer ce mec-là, genre là, j'aurais tout fait.
Quoi. Ouais, il y avait un petit côté Koh-Lanta, c'était mon épreuve des poteaux.
C'était mon Koh-Lanta, moi.
j'étais face à cette personne que j'aimais et il fallait que j'arrive à passer au-dessus de l'émotion et que je comprenne que ce qu'il me fallait, je savais ce que c'était, ce qu'il me fallait pas, je l'avais identifié et j'allais lui dire non. Un jour, je rentre, donc ça fait un an et demi de relation, je pars pour un déplacement professionnel à Colmar, en Alsace.
Ah, on est loin
du Colmar.
On est loin des déplacements professionnels à New York.
Ah oui, et en fait, je suis donc dans ce petit bout d'Alsace qui est très joli, comme Colmar, et je suis sur un salon, et là, d'un coup, je le vois. Ça, on ne s'était pas parlé depuis 2 mois.
Pardon.
Je le vois débarquer. Et il me...
À Colmar. Hein,
donc. À Colmar. Donc, qu'est-ce qu'il fout là? Et il me dit, je viens de prendre un billet depuis New York. Je voulais venir te voir. Je t'aime. Il faut qu'on...
Reviens.
À ce moment-là, je le regarde. C'était ce moment d'initiation où là, ça y est, il vient vers moi. C'est ma kryptonite, ce mec-là. Je sais. Et je lui dis, c'est fini. Et donc, quand je lui ai formulé que je ne voulais plus, j'avais l'impression de... Franchement, je me suis sentie comme Beyoncé. Quand j'ai voulu rompre avec lui, j'ai été voir une psy, en fait. J'ai commencé un petit travail de thérapie.
C'est bien, il faut pouvoir faire le point.
De toute façon, je me sentais beaucoup trop... J'avais l'impression vraiment d'être au bord d'une falaise et il fallait que je fasse qu'on prenne la main. Tu sais quoi, on peut en parler avec toutes les copines qu'on veut, tous les frères qu'on veut, tout, voilà. Mais il n'y a rien de mieux qu'un regard extérieur pour te dire... Elle m'a dit quelque chose de tout bête, ma psy, elle m'a dit « Mais vous êtes heureuse ?»
J'étais obligée de dire, bah en fait, non. Et elle m'a dit, bah, c'est il y a que ça qui compte. Et là, j'étais complètement désarmée. Et oui, c'est vrai que c'est simple. C'est pour ça qu'on est sur cette planète, juste pour être heureux. Alors oui, on n'est pas dans la béatitude, mais on est capable de dire si on est malheureux. Oui. Et là, j'étais malheureuse et j'étais perdue. Et donc, elle ne m'a jamais dit... elle n'a pas dit pervers narcissique, elle ne m'a pas dit... elle m'a juste dit, si vous n'êtes pas bien, il faut prendre des décisions.
Est-ce voilà. que toi, avec du recul, tu penses que c'est un pervers narcissique ?
Je pense qu'on était dans une relation toxique et perverse. Il était dans une posture qui ressemble à ça, en tout cas un peu perverse ou un peu toxique. Mais j'ai créé ce climat. J'étais dans cette phase de ma vie où ça aurait jamais pu arriver quelques mois avant et ça ne serait jamais arrivé maintenant. Mmh. Et j'avais besoin de ça pour savoir où étaient mes limites. Et je suis assez convaincue qu'on a plusieurs... épreuves émotionnelles dans nos vies de couple, et on a d'abord des relations qui nous permettent de savoir ce qu'on veut, qui nous font du bien, qui sont les relations formatrices de notre vie, et ensuite on a souvent une relation qui nous permet de comprendre ce qu'on ne veut pas. J'étais dans une phase, et la seule et unique phase de ma vie, où je me suis demandé, quand cette personne me parlait, si je ne ferais pas mieux de sauter de ce deuxième étage. Qu'est-ce qui se passerait si je sautais de ce deuxième étage chez moi ? Et là, ça a été un déclic où je me suis dit, mais attends, t'as 30 ans, tu ne peux pas en être là, ce n'est pas possible. Mmh. Et donc, je romps avec lui. Et à ce moment-là, je décide de me mettre à voyager. Et je voyage pendant un an.
Donc là, c'est un peu le déclic total.
Exactement.
Tout switch.
Cette limite qui te permet de te dire maintenant, prends ta vie en main, occupe-toi de toi et essaye de comprendre qui tu es, mais sans les hommes.
D'accord.
Ça, c'est assez nouveau à ce moment-là.
Parce que tu l'avais pas trop fait avant,
finalement. Non. C'était le temps de quelques mois, mais finalement, ça m'a fait que j'allais me retrouver vraiment toute seule et essayer de rencontrer le monde. Mais toute seule. Donc, je me mets à voyager. Je pars chaque mois dans un pays différent. Bon, moi, j'étais à mon compte, donc je pouvais me permettre de faire ça, de faire beaucoup de télétravail. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle le digital nomade.
Et si cool.
Mais oui, c'était absolument génial. Donc, je me mets à vivre à Séville, à Barcelone. Enfin, en tout cas, je m'installe une ou deux semaines à chaque fois dans les villes. Je me pose, je rencontre des potes, Et j'ai l'impression de grandir. Et de grandir sans, par exemple, cette personne, ce premier ex-mari avec qui j'ai tout fait, et sans cette personne qui me montrait des choses que je n'avais pas expérimentées toute seule moi-même, qui avait ce temps d'avance, tu vois. Et donc, je parcours un petit peu le monde, je m'amuse beaucoup, je développe beaucoup mon entreprise. Enfin, je me balade aux États-Unis, toute seule. Et je fais quelque chose d'assez... j'ai un petit switch de vie assez étonnant, c'est qu'on est donc fin 2019, donc ça fait un an que je me balade un petit peu partout, que j'ai une vie de bohème, telle qu'on en rêve un petit peu, tu vois, de voyager et sans trop d'attache. Et on propose un boulot.
De bureau.
De bureau. Un CDI. On est en 2019, donc j'ai 31 ans. Et je ne sais pas pourquoi c'est la première fois que ça me donne envie. Et pour signer cette promesse d'embauche, je dis à mon patron, attends-moi, je reviens fin janvier, je me casse. Et là, je pars.
Ah, t'as quand même eu envie de partir avant de...
Ouais, histoire de bien prendre la... Et donc, je me barre... 2 mois en Californie. C'était comme une espèce de passage. C'était vraiment un moment de transition. Je pense qu'on peut le vivre à travers un voyage ou à travers plein d'autres choses. Tu vois, quelques années avant, je le vis en faisant une teinture sur les cheveux. Tu vois, c'est comme une rupture entre le monde d'avant et le monde d'après. Tu sais que tu vas basculer et du coup, tu as envie d'acter la chose. Et donc, j'avais envie de partir pendant 2 mois en roue libre. Et je me disais, putain, c'est trop cool parce que j'aurais pu vivre cette vie aux USA. J'avais tout à dispo. J'avais un mec qui était prêt à m'offrir une vie, à m'offrir les papiers. Et j'ai choisi mon indépendance. Peut-être qu'elle est plus chère, peut-être qu'elle est plus courte, mais en tout cas, elle était vachement plus intense. Et donc, j'ai vécu le truc et je suis rentrée fin janvier et j'ai commencé à travailler en CDI à Paris, dans la grisaille. Et en plus, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie parce que le hasard a fait que je me suis retrouvée en CDI en plein Covid. Oui. Et donc, ça a sauvé un petit peu mon indépendance. Et aujourd'hui, je suis très sereine, entre guillemets, dans ma vie. Parce qu'aussi, j'ai ça et j'ai une équipe et j'ai des gens qui m'entourent avec qui j'avance au quotidien, quoi.
Que tu retiendrais de cet enchaînement un peu yin et yang, de cette relation très très longue et très bienveillante, et puis de cette relation très fusionnelle et très passionnelle et un peu toxique, voire carrément toxique, en fait, d'avoir fait les deux, d'avoir vécu, d'avoir rencontré plein de gens, d'avoir daté, d'avoir rencontré des gens chouettes, des gens moins chouettes, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retiens de tout ça? Quelle est la leçon que tu tires, et du coup de quoi tu as envie maintenant?
Je retiens que je crois grave en l'amour. Ça n'a pas changé. Alors, j'ai eu des phases très cyniques où je ne crois. J'ai un peu du mal avec le couple. Ça, je ne vais pas te mentir. En tout cas, j'ai un peu du mal avec la routine. Comme je l'ai identifié, ma première relation, pour moi, elle a cassé finalement parce qu'il y avait de la routine. Et je pense qu'il faut encore que j'apprenne à apprivoiser ça.
Il y a plein de couples qui fonctionnent en dehors de la routine. Toi et moi, on en a déjà parlé, mais dans ma famille, par exemple, mon oncle et ma tante ont mis 10 ans avant de s'installer ensemble. C'est un modèle que j'avais jamais eu.
Moi, pour moi, c'est un format aujourd'hui que j'idéalise. Et puis, peut-être que si on faisait un podcast dans 6 mois, tu me verrais en couple à vivre avec quelqu'un. En fait, ce que j'ai appris avec tout ça, c'est qu'on n'a jamais de certitude. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'amour, sur le couple, on peut avoir tous les idéaux qu'on veut. Chaque rencontre te pète à la gueule et te fait te rendre compte à quel point tes certitudes, tu peux te les mettre où je pense, parce
bien
que...
C'est ça qui est beau, c'est ce qu'on attend.
C'est ce qui est incroyable, je trouve ça génial. J'ai vu tellement de copines qui me disaient « Ah non, mais moi, je suis trop comme toi, girl power, j'ai rien à foutre des mecs. » Et puis, elles tombent amoureuses, et puis c'est des canards. Et je trouve ça en même temps génial, parce que...
Qui n'empêche pas d'être girl power,
mais tout à fait. Mais c'est ce côté très, très opposé entre ce qui se passe dans notre tête, ce qu'on essaie de synthétiser, et puis finalement, bah, quand on laisse parler le cœur... Il se passe des choses surprenantes et assez géniales. Et ce que je retiens, en tout cas, c'est que j'ai vécu un divorce que je ne regrette absolument pas. C'était la meilleure personne avec laquelle divorcer. Et cette relation méritait bien un mariage. Donc je suis très fière de m'être mariée avec cette personne et d'avoir divorcé, même avant 30 ans, parce que c'est ce qui fait cette personne peut-être... étonnante que je suis, et j'adore m'identifier à ça. Et cette relation toxique derrière m'a laissé beaucoup de traces que j'efface en ce moment, qui sont derrière moi maintenant, mais qui étaient extrêmement nécessaires parce que c'était un an et demi qui aurait dû être distillé en peut-être 10 ans de vingtaine.
C'était la vie à 1000 à l'heure.
Exactement. Et ça m'a donné un putain de besoin de vivre très intense. Donc je sais de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de choses sereines, mais j'ai aussi besoin de passion. Donc ça, je l'ai identifié. Et en plus de ça, ces hommes m'ont appris qu'ils pouvaient partir. Et donc j'ai appris que je pouvais être bien toute seule. Ouais, non, franchement, le mariage, c'est chouette. Être en couple, c'est chouette. Mais le célibat, c'est aussi très chouette. Et puis, ça dépend juste des moments de ta vie. Sois en phase, c'est tout, avec ce dont t'as besoin. Là, j'ai pas besoin d'être mariée. J'ai pas besoin d'être avec quelqu'un pour me sentir complète. Par contre, si je trouve quelqu'un qui me complète alors que j'en avais pas besoin, bah, je le laisserai pas filer.
Merci à Florie d'avoir partagé son histoire autour du feu de camp. Ce que je retiens très fort dans cet épisode, c'est que notre statut social ne nous définit pas en tant qu'humain, car on peut être tout un panel extraordinaire de choses qui font ce que l'on est au plus profond de soi. Divorce, c'est un mot, mais pas une définition humaine. J'espère que comme moi, cette écoute vous remplit de love et d'optimisme. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, en me laissant un petit mot doux et en vous abonnant à mon super Instagram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
@RaccoonClubPodcast. Et surtout, en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.